Accent d'Europe, Catherine Roland.
Sie kamen am Abend, bei Tag und bei Nacht. Du schautest nur fragend, was habt ihr nur gemacht?
Bonjour à tous, 28 ans après la chute du régime communiste, l'un des derniers tabous de l'ex-RDA est en train de se briser, celui des adoptions forcées, des bébés volés à leurs parents, le plus souvent pour des raisons politiques, afin de les confier à des familles jugées fidèles au parti. Les historiens qui s'emparent lentement du sujet estiment que plusieurs milliers d'enfants seraient concernés. Une histoire trop longtemps tue et réveillée par une pétition déposée il y a quelques semaines au Bundestag. L'association des enfants volés de la RDA réclame désormais la mise en place d'un organisme officiel de recherche et l'accès libre aux archives dans le Land de Saxe, au sud de Berlin. C'est le reportage de Julien Michossi.
Cette chanson retrace mon destin et celui de nombreux autres parents. L'artiste a su mettre des mots sur tout ce que nous avons vécu. Les documents falsifiés, manipulés, les enfants qui nous ont été enlevés. C'est l'histoire de notre vie.
Cette histoire mise en musique par le chanteur Rüdiger Kirsch, c'est celle d'Andreas Lacke. Dans son petit appartement de Leipzig, Andreas ne peut retenir ses larmes lorsqu'il regarde le clip sur son téléphone portable. Des larmes qui racontent près de 30 années de souffrance et d'incertitude. En 1984, Andreas tente de fuir la RDA avec sa femme enceinte. Il est condamné à 4 ans et 7 mois de prison. Sa femme, laissée libre, accouche quelques mois plus tard un fils qui leur est enlevé à l'hôpital pour être remis à une famille fidèle au régime, sans que celle-ci ne soit au courant du destin des parents naturels. Après la chute du mur, Andreas met tout en œuvre pour retrouver ce fils perdu, avec pour seul document une photo de l'enfant prise par sa mère à l'hôpital.
Chaque fois que vous voyez dans la rue une personne qui a l'âge de votre enfant, vous vous dites « c'est peut-être le nôtre ». Ne pas savoir, être enfermé dans l'incertitude, ça nous rend malade. Nous sommes nombreux à vivre des aides sociales. Non pas parce que nous ne voulons pas travailler, mais parce que nous sommes détruits sur le plan psychologique et physique. Tout ce que veulent ces familles, c'est juste savoir ce que sont devenus leurs enfants. Cette question les hante jour et nuit.
Sa femme, entre-temps décédée, Andreas se heurte au silence de l'administration. Personne ne veut croire à un système d'adoption forcée. L'Allemagne réunifiée veut regarder de l'avant. Il s'adresse alors aux médias et retrouve, grâce à une émission télévisée, son fils Marco en 2013. Mais le combat d'Andreas pour la vérité n'en est pas pour autant terminé. Au cours de toutes ces années, il a rencontré de nombreuses autres familles avec le même destin. Il crée alors une association et un site internet, Les Enfants Volés de la RDA.
Nous leur expliquons comment entamer leurs recherches, à qui elles peuvent s'adresser, les administrations où elles peuvent déposer leurs demandes, comme par exemple au bureau des archives de l'état civil. Les familles disposent au départ de si peu d'informations sur leurs enfants qu'elles ne savent pas par où commencer. Et nous pouvons les aider en leur disant « allez voir les agences d'adoption, les hôpitaux, nouer des contacts dans l'espoir de tomber sur la bonne personne qui pourra vous aider ».
Lorsque Catherine Unholz découvre l'association, c'est un énorme soulagement. Son appartement est situé à quelques minutes en voiture de celui d'Andreas, avec qui elle se lie d'amitié. Dans les années 80, elle a accouché de 2 enfants à l'âge de 17 et 19 ans, des enfants qui lui ont été enlevés à l'hôpital. Contrairement à Andreas, elle ne sait toujours pas ce qu'ils sont devenus.
Je me suis dit que je n'étais pas toute seule. J'ai toujours pensé que j'étais la seule personne à avoir vécu ça. Et là, d'un coup, j'ai découvert que c'était arrivé à tellement d'autres parents. Nous partageons tous le même destin. Nous pouvons nous entraider, échanger sur nos expériences et essayer de vivre avec cela. Pour ne pas sombrer complètement, j'ai tout refoulé, tout enfoui au plus profond de moi-même. Autrement, je n'aurais jamais pu continuer à vivre.
Catherine Runholz a vécu deux fois le même scénario. Juste après l'accouchement, les médecins lui ont dit que le bébé était mort-né, une histoire partagée par de nombreux autres parents. Si Catherine Runholz ne dispose pas de preuves irréfutables que ses enfants lui ont été volés, les documents officiels qu'elle a difficilement pu rassembler sont troublants. La taille, le poids des enfants diffèrent d'un document à l'autre. Elle retournait aussi voir son gynécologue de l'époque pour lui montrer les actes de décès et pour le médecin, pas de doute, les documents ont été falsifiés. Et beaucoup de victimes sont persuadées que derrière leur récit se cache un système organisé. Petra Köpping, la ministre des Affaires sociales du Land de Saxe, fait partie des rares responsables politiques à s'engager aux côtés des victimes.
J'ai participé à plusieurs réunions au cours desquelles il m'a été rapporté que des personnes impliquées directement dans ces adoptions forcées continuent encore aujourd'hui à travailler dans différentes administrations. Les familles ne font plus confiance à l'État, elles se disent « l'État continue de nous cacher la vérité, personne ne peut nous aider ». Donc oui, nous avons besoin d'un organisme indépendant pour aider et ces familles et rétablir la confiance.
Près de 30 ans après la réunification, l'Allemagne est encore bien loin d'avoir fait toute la lumière sur l'un des derniers tabous de l'ancien régime communiste.
C'est un nouveau coup dur pour la francophonie et le français qui était encore, il n'y a pas si longtemps, la langue étrangère la plus étudiée en Turquie. Les autorités viennent donc d'interdire aux universités d'ouvrir de nouveaux départements d'études françaises. Une décision très politique, comme nous l'explique Anne Andlauer.
Est-elle victime collatérale du vent mauvais qui souffle sur les relations franco-turques ou la francophonie est-elle devenue une nouvelle cible dans le pays de Recep Tayyip Erdogan ? Toujours est-il que début mai, les autorités ont suspendu l'ouverture de nouveaux départements d'études françaises dans les universités du pays. 16 départements déjà existants mais n'ayant pas encore admis d'étudiants ne seront pas autorisés à le faire. Les 19 autres, où des étudiants travaillent déjà, ne sont pas concernés. Côté turc, on avance deux raisons. Le Conseil de l'enseignement supérieur invoque la réciprocité. Il n'y aurait pas de département de turcologie dans les universités françaises, et donc aucune raison de promouvoir le français dans les universités turques. L'explication est fallacieuse. Le turc est évidemment représenté dans l'enseignement supérieur français depuis des décennies, voire des siècles, ne serait-ce qu'à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, rattaché à la Sorbonne. Le Conseil de l'enseignement supérieur turc le sait parfaitement. Plusieurs universités turques travaillent étroitement avec les départements de turcologie des universités françaises, comme celle de Strasbourg, un autre établissement réputé dans cette matière. L'autre raison invoquée est le contexte tendu des relations entre Paris et Ankara. La colère turque face au soutien français aux combattants kurdes de Syrie, ou encore la publication, en France, d'un manifeste contre le nouvel antisémitisme qui a mis hors de lui Recep Tayyip Erdogan, car cette tribune, signée par 300 personnalités, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy, appelle les musulmans à déclarer caduques certains versets du Coran. Mais il faut certainement creuser un peu plus loin pour comprendre ce coup porté à la francophonie. Dans les premières décennies de la République, le français était encore la langue des élites en Turquie. Des élites occidentalisées, attachées à l'armée comme garantes de la laïcité. Les Turcs blancs, comme on les surnomme parfois. Or, l'actuel président dénigre ces élites qu'il accuse, parfois à raison, de mépriser le peuple. Il les appelle les « mon cher » en français dans le texte. Recep Tayyip Erdogan fait donc très peu de cas du sort de la francophonie dans son pays, laquelle reste malgré tout enseignée et portée par 11 lycées français et désormais 19 départements d'université.
Bonjour Amino.
Bonjour Catherine.
Alors, être ou ne pas être connecté, telle est la question qu'on se pose avec vous aujourd'hui, Eve. Depuis plusieurs années, l'impact de l'utilisation des smartphones sur les plus jeunes d'entre nous ne cesse d'inquiéter. Alors, faut-il se méfier, se réjouir ou davantage encadrer l'usage que font les jeunes de leur smartphone ? Plusieurs études ont été publiées récemment à ce sujet.
Oui, et sans vous dévoiler la conclusion de ces études, je peux déjà vous dire qu'elle est plus mitigée qu'on ne le croit. Difficile en tout cas aujourd'hui de se faire une opinion claire sur l'intérêt ou les dangers que représentent les smartphones pour notre société. D'abord parce que d'anciens cadres de la Silicon Valley eux-mêmes regrettent aujourd'hui d'avoir développé les réseaux sociaux que l'on connaît, et qu'ils interdisent à leurs propres enfants d'utiliser des tablettes et qu'ils les mettent dans des écoles alternative, comprenez, équipée de papier et de crayon. Oui, oui, comme à l'ère pré-numérique, Catherine.
Si j'ai bien compris, Eve, selon plusieurs études européennes, l'impact des smartphones dépend surtout de l'âge de son utilisateur.
Oui, un âge qui ne cesse d'ailleurs de diminuer. Aux États-Unis, l'âge du premier téléphone portable est aujourd'hui descendu à 6 ans. Ils sont ensuite 67% à détenir un appareil à 10 ans et 94% à l'adolescence, l'âge le plus communément admis pour détenir son premier smartphone. Mais l'impact des téléphones n'attend pas le nombre des années, puisqu'à y regarder de plus près, tous les bébés en réalité sont exposés dès la naissance au téléphone, parce qu'ils voient leurs parents les utiliser devant eux, prendre des photos, parler à l'appareil. Bref, ce qui leur fait développer très vite généralement une curiosité vis-à-vis de l'objet avec lequel ils se sentent finalement en concurrence.
Oui, et concernant les tout-petits, les études sont plutôt alarmantes.
Dans les cas les plus extrêmes, les bébés peuvent développer des difficultés d'endormissement ou encore des troubles alimentaires. Selon une enquête mandatée par le ministère allemand de la Santé, l'enquête BLIK, B-L-I-K-K, des sérieux troubles peuvent apparaître dès la maternelle. Les enfants ont du mal à se concentrer, voire même le développement du langage est ralenti. En Allemagne, les enfants entre 2 et 4 ans passent déjà en moyenne 30 minutes par jour sur un smartphone. Certains contenus adaptés sont spécifiquement développés pour cette tranche d'âge et peuvent représenter un intérêt pédagogique à condition de ne jamais les laisser seuls avec l'appareil.
Alors ça peut paraître contradictoire, mais chez les adolescents, le bilan de l'utilisation des smartphones est moins négatif.
Finalement oui, l'adolescence c'est l'âge d'or des réseaux sociaux, on s'organise sur WhatsApp, on se suit sur Snapchat, on se tague sur Instagram. Bref, la communauté se vit en ligne plus que jamais, en parallèle de la vraie vie, celle du collège. L'outil internet dans bien des cas se révèle plutôt utile, c'est un puits sans fond d'informations, de connaissances, à condition là aussi de savoir continuer à se parler en chair et en os. Gros bémol quand même, le harcèlement en ligne, qui concerne près de un tiers des adolescents entre 12 et 19 ans et conduit à l'isolement, pire à la dépression dans 5% des cas. Reste que les ados sont carrément accros à leur téléphone. Selon une enquête cette fois-ci menée en France sur le sujet, en 2017, plus des deux tiers des 12-14 ans préfèrent être privés de sortie plutôt que privés de leur smartphone.
Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le sujet commence vraiment à être pris au sérieux.
Oui, et cette fois-ci, c'est aussi bien du côté de la Silicon Valley qui veut se racheter après n'avoir quasiment rien financé sur le sujet depuis le lancement de leurs produits numériques, appareils ou applications d'ailleurs, que du côté des gouvernements et même de l'Union européenne. Au niveau européen, par exemple, le règlement sur la protection des données personnelles, le fameux RGPD, qui sera bientôt décrypté dans Accent d'Europe, fixe à 16 ans l'âge à partir duquel un mineur peut consentir au traitement de ses données personnelles, une sorte de majorité numérique. Mais le vrai chantier se situe pour l'instant au niveau national. En France, par exemple, le gouvernement a interdit l'usage des téléphones portables à l'école et au collège pour la rentrée prochaine, la rentrée 2018, une interdiction qui existe déjà en Allemagne dans le Land de Bavière et qui est en expérimentation dans d'autres pays en Europe, en Angleterre et au Danemark notamment.
Ces mesures ne font pas l'unanimité, notamment du côté des parents.
Eh oui, car figurez-vous Catherine, si les enfants et les adolescents sont si nombreux à avoir des téléphones portables, c'est souvent que cela arrange bien les parents. Et ravis de pouvoir les joindre à tout moment, mais aussi, et c'est plus nouveau, les professeurs qui sont de plus en plus nombreux à les associer à une démarche pédagogique. C'est notamment le cas en Finlande, où les élèves utilisent leur téléphone pour répondre à des QCM en classe. Bref, il va probablement falloir encore quelques années avant de trouver le bon équilibre entre une utilisation excessive des smartphones et pas d'utilisation du tout. Quelque chose me dit que la réponse viendra de cette nouvelle génération précisément, celle qui n'aura jamais connu la vie sans portable.
Voilà, nous on l'a connue cette vie sans portable. Merci Eve Mineau, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Are you ready? Go! Attention! Go!
Et on embarque à présent à bord d'un Dragon Boat, celui des Pink Ribbonettes de Bruxelles. Nous vous en avions parlé il y a un an et demi de cette équipe de femmes touchées par le cancer du sein qui pagaient pour des raisons thérapeutiques. Elles souhaitaient à l'époque acquérir un Dragon Boat pour pouvoir participer à la fameuse Vogalonga à Venise, une course internationale de Dragon Boat. C'est désormais chose faite. Elles participeront toutes le 20 mai prochain à cette compétition et l'ex-Milota a assisté à l'un de leurs derniers entraînements à Bruxelles.
Une tête de dragon s'avance sur les flots. Nous sommes sur le canal de Bruxelles. Une équipe de 13 pagayeuses est à bord de l'Espérance, un dragon boat entièrement rose, acquis il y a un an grâce à un financement participatif. Il y a Cathy, le capitaine, Lily, porteuse du projet, René ou encore Sonia, toutes touchées par un cancer du sein, parfois à quelques mois d'intervalle. Elle s'entraîne pour la Vogalonga, une course de bateau dans la lagune de Venise, 32 km au programme.
Votre objectif, gagner ?
Oh ben, c'est gagner pour nous, personnellement, hein, pour se prouver justement qu'après un cancer du sein, tout est possible, que l'activité physique est importante et nous remet en forme.
Liliane de Bock est la présidente de l'association Pagayer contre le cancer du sein. Sur l'eau, unies dans l'effort, les pagayeuses se sentent apaisées.
Simplement le clapotis de l'eau, ben ça nous apporte un bien-être. Et effectivement, de se retrouver toutes ensemble, ayant vécu les mêmes choses, fait que ben, on est une équipe et qu'on est plutôt solidaires l'une avec l'autre.
Stop the boat ! En arrière !
Sonia ne badine pas avec l'entraînement.
C'est militaire, dis donc.
Oui, bien sûr. Ah, c'est quand même strict parce que c'est pas sans danger. Ici, c'est calme. On a eu déjà des mauvais temps ici aussi, sans doute. Mais donc, je pense que la lagune de Venise, ça, c'est quand même une autre catégorie. Hein.
Un entraînement nécessaire, confirme Liliane.
C'est plutôt un entraînement technique où le barreur va nous faire faire des exercices, 10 rapides, 20 lents, des arrêts stop quand il dit stop au cas où il y aurait un danger là où on devrait naviguer.
Ce qui est le plus dur, c'est très physique, ça demande de la force, de l'endurance.
Oh ben, c'est plus de l'endurance quand même. Bon, maintenant, ça fait quand même plusieurs mois qu'on s'entraîne, donc c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de tenir une longue distance à une même cadence. Ça, c'est plus difficile, évidemment.
Tant de chemin parcouru depuis le début de l'aventure, en kayak monoplace d'abord, et maintenant toutes dans le même bateau, leur bateau. Les promeneurs sur la rive peuvent lire « Pagayer contre le cancer du sein ». Sonia a hâte d'être à Venise.
On a commencé avec des kayaks et maintenant, nous sommes là, on a eu peur qu'on ne peut pas remplir un bateau avec 10 femmes. Maintenant, nous sommes 12, même avec des réserves. Pagayer avec les amis, tous les autres de l'équipe, ça doit être une expérience extraordinaire. Donc, franchement, c'est d'abord la location Venise, c'est toujours joli, avec une équipe qui a beaucoup travaillé. Donc, je pense que ça va vraiment être quelque chose remarquable, on va dire.
Le capitaine, Cathy Istas, est confiante et salue le courage de ses coéquipières.
Déjà, il fallait une force terrible, je pense, pour passer à travers tous les traitements. Et puis maintenant, de cette expérience, de cette mauvaise expérience, on fait une force et on fait un challenge.
Défi à relever le 20 mai à Venise, au milieu de 150 équipages de Dragon Ladies.
Prouve que tu existes.
Il est à la tête d'un véritable empire textile à l'image du patron de Zara, auquel il déteste d'ailleurs qu'on le compare, à la tête de Mango et de ses quelques 2200 boutiques dans le monde. Isaac Andic se montre aussi discret que son rival, jaloux de son intimité. L'homme d'origine turque cultive le secret, François Musso.
S'il y a quelque chose que Isaac Andic déteste au plus haut point, c'est bien qu'on parle de lui. Un peu à l'image d'un autre millionnaire, Amancio Ortega, le patron de Zara. Ce qui est certain, c'est que dans les locaux de Mango, surtout ceux du siège près de Barcelone, cet homme élégant se montre proche des gens, s'intéresse à tous, demande l'avis de tous quant aux manières d'améliorer l'entreprise, les produits, les boutiques. Isaac Andic est donc surtout un mystère pour les Espagnols qui n'appartiennent ni à son clan, ni à sa multinationale du prêt-à-porter. Il y a 2 ans, il avait voulu prendre ses distances avec cette entreprise pour laquelle il a tout donné depuis près de 35 ans. Il en avait alors confié la gestion à son fils, Jonathan. Mais ce dernier n'avait pu éviter de lourdes pertes financières de l'ordre de 61 millions d'euros, ce qui avait obligé le père à reprendre les commandes. L'homme demeure un mystère pour les médias, pour l'homme de la rue. On sait juste qu'il est le 9e Espagnol le plus riche, avec une fortune de 2,3 milliards d'euros, et qu'il détient une société patrimoniale qui investit dans l'immobilier. On sait aussi qu'il a 3 fils et qu'il est séparé de sa femme, Neusreg. Quant au reste, motus, même les réseaux sociaux ne disent rien sur Isaac Andic. Il y a une dizaine d'années, il avait eu cette phrase lors d'un dîner privé. Le vrai pouvoir, c'est le silence.
Merci de nous avoir suivis à la réalisation. Il y avait bien sûr Françoise Grelot et vous pouvez nous suivre évidemment sur RFI.fr et sur notre page Facebook.